Europe 1 Culture Média.
9h-11h.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Enchanté de vous retrouver pour finir la semaine avec vous au menu, pardon, tous les médias, toutes les formes de culture, c'est Culture Média. Aujourd'hui, par exemple, de la gastronomie avec Laurent Mariotte et Antoine Decaune en duplex depuis la conférence de presse des Césars, puisque c'est lui, Antoine, qui va présenter la cérémonie le 25 février. Au menu également, Bruno Donnet pour ses télescopages, le portrait d'avant la célébrité, le portrait pré-fame de Lisa Marie Marquez, Marc-Antoine Lebray et ses stories en toute fin d'émission, et dans quelques instants, le journal des médias signé Héloïse Goy et les audiences de la veille avec une surprise. Notre infomédia autour de l'émission C'est dans l'air sur France 5 qui propose pas moins de 4 soirées spéciales avec les candidats à la présidentielle et avec un choix audacieux, articuler ces 4 émissions autour de questions internationales. Nous serons avec sa présentatrice, la journaliste Caroline Roux. Et puis nos invités, Thierry Marx, le cuisinier étoilé, multi-activité. Il est également prof de judo et il lance, c'est ce qui nous intéresse, son magazine papier. Ça s'appelle Bon et c'est une première. C'est un magazine de cuisine avec quasiment aucune photo de cuisine. Enfin, la chanteuse Jeanne Chéral pour son spectacle original à tous les sens du terme. Ça s'appelle Cinéma. Et là encore, c'est une première. Des chansons de cinéma, mais sans images de cinéma. On dirait que c'est de là ils se sont parlé. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Culture Média, c'est parti. Bonjour Héloïse Goy.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Au sommaire de votre journal des médias.
Des nouveautés pour le Grand Prix d'Amérique qui sera transmis en direct à la télévision dimanche. Côté musique, les Français écoutent surtout des titres en français sur les plateformes. Et puis combien coûte la justice et la police en France ? Réponse avec 2 reportages dans Capital sur M6.
Mais d'abord, les audiences qu'ont regardées les Français hier soir.
TF1 en tête, une belle progression pour la série Une si longue nuit, la série policière avec Mathilde Seigné, a attiré 3 896 000 téléspectateurs hier, soit 18% de part d'audience. En deuxième place, France 2 avec un bon score pour son envoyé spécial sur le harcèlement scolaire, 1 918 000 téléspectateurs, c'était 9,4% de part d'audience. Et puis une surprise, comme vous le disiez Philippe, en troisième place, C8 avec Face à Baba, Cyril Hanouna recevait Jean-Luc Mélenchon. Et il a attiré 1 836 000 téléspectateurs, c'est 8,9% de part d'audience.
Il a reçu avec Jean-Luc Mélenchon avec un débat face à Éric Zemmour.
Oui, mais qui n'a pas pris toute l'émission, seulement une heure au lieu de 10 minutes d'ailleurs. c'est un score un peu moins bon que le débat avec Zemmour, sa dernière émission, mais ça reste un score très très haut pour C8.
Culture Média.
On ouvre ce journal avec le Grand Prix d'Amérique, c'est du hippisme qui va se tenir ce week-end.
Et oui, la plus grande course de trot attelée au monde aura lieu dimanche à l'hippodrome de Paris-Vincennes. Ce sera retransmis en direct sur M6, Paris Première et Equidia à partir de 16h20. Jean-Pierre Barjon, le président du trot qui organise ce Grand Prix, nous raconte les spécificités de cette 101e édition.
Et la nouveauté pour le Prix d'Amérique cette année, au-delà de la compétition, c'est malheureusement que cette épreuve va se disputer pratiquement à huis clos, puisque nous avons droit qu'à 5000 spectateurs et que depuis déjà plusieurs semaines, la liste est close et qu'on va donc nous-mêmes travailler sur un produit extrêmement digital et extrêmement visuel. Ça va être une grande compétition, mais un spectacle très orienté média, évidemment.
Un événement prestigieux qui attire les téléspectateurs. L'année dernière, le Prix d'Amérique a connu un record d'audience. 1 135 000 Français étaient devant leur écran pour regarder cette course. C'était 9,2% de part d'audience du public. Jean-Pierre Barjon explique à notre micro pourquoi cet événement hippique est particulièrement attendu.
Il y a plusieurs explications. La première, c'est historique puisque c'est une épreuve qui fonctionne depuis plus de 100 ans. Donc elle est rentrée dans la mémoire de tous les Français et on a tous des souvenirs de Prix d'Amérique, même si on n'est pas spécialiste de cette épreuve. C'est le nirvana absolu et c'est le top du top de notre profession, de notre institution. Et donc c'est une course qui, à cette période de l'année, accueille les meilleurs chevaux du monde.
Cette année, le Grand Prix d'Amérique promet des surprises puisque FaceTime Bourbon, le cheval grand favori double tenant du titre, a été déclaré forfait en raison d'un problème de santé. Le gagnant de la course remportera la somme d'un demi-million d'euros.
FaceTime Bourbon, on dirait une activité de confinement. dans l'actu également, la mère d'une jeune américaine porte plainte contre Snapchat et contre Instagram.
Eh oui, Tammy Rodriguez, une femme du Connecticut, accuse les applications d'avoir provoqué le suicide de sa fille Selena en juillet dernier. Selon la mère, sa fille de 11 ans était devenue accro aux réseaux sociaux au point de se faire prendre en charge par un médecin. Ce médecin avait d'ailleurs bien constaté les conséquences néfastes de cette addiction. Perte de sommeil, troubles alimentaires et mutilations. Des symptômes qui se seraient encore aggravés avec la pandémie. C'est donc devant le tribunal fédéral de San Francisco que Tammy Rodriguez a poursuivi les entreprises. Snapchat et Instagram sont accusés de manquer de contrôle parental, de chercher à exploiter la susceptibilité des utilisateurs et de partager des produits de médias sociaux dangereux et défectueux. Face à cette accusation, l'application Snapchat s'est dite dévastée d'apprendre le décès de Selena. De son côté, Meta, la maison mère d'Instagram, n'a pas accordé de commentaires à la presse. Par ailleurs, une autre plainte a été déposée sur le même sujet cette semaine. Snapchat et Meta sont aussi accusés d'être responsables de nombreux problèmes de santé mentale d'un adolescent de 15 ans.
Meta, qui est le nouveau nom de Facebook. On continue dans l'actualité des médias avec une info qui concerne Netflix cette fois, la plateforme américaine compte un nouvel actionnaire.
$1 milliard, c'est ce que vient d'investir l'homme d'affaires Bill Ackman dans Netflix via sa société Pershing Square Holdings. Un investissement qui classe cet Américain parmi les 20 principaux actionnaires du groupe de vidéos à la demande. Et cet achat, qui correspond à plus de 3 millions d'actions Netflix, a été réalisé par Bill Ackman après le plongeon spectaculaire de la capitalisation boursière dans l'entreprise. La semaine dernière, Netflix avait annoncé des perspectives de croissance plus faibles que prévues et en conséquence, son cours avait chuté de plus de 20%. Bill Ackman a donc profité d'un coup des actions particulièrement attractives pour investir dans la plateforme. Et s'il est connu pour intervenir dans les décisions des entreprises où il investit, Bill Ackman a pour le moment affirmé qu'il ne souhaitait pas changer la stratégie de Netflix, stratégie actuellement pilotée par le cofondateur et directeur actuel Reed Hastings.
Dans l'actualité également de la musique, sur les plateformes, les Français écoutent surtout des titres en français.
Et oui, selon une étude du régulateur de l'audiovisuel et du numérique, l'Arcom, la langue de Molière est largement majoritaire dans les chiffres d'écoute sur les plateformes de musique comme Spotify, Apple Music ou Deezer. En 2020, 69% des titres écoutés sur Spotify étaient en français, contre 28% en anglais. Des chiffres qui s'expliquent notamment par le succès du rap auprès des jeunes, du rap francophone. Ce genre musical a atteint près de 70% des occurrences des tops en 2020 sur Apple Music, Spotify, Deezer et YouTube. C'est considérable. Du côté de la radio, en revanche, l'Arcom a constaté une plus grande diversité des langues et des genres musicaux dans les titres diffusés. Aujourd'hui, à peu près autant de titres francophones qu'anglophones sont écoutés sur les ondes.
Et on termine ce journal des médias avec des reportages sur la chaîne M6 consacrés au coût de la justice et de la police en France.
Quel est le vrai coût de la justice? La police a-t-elle les moyens de nous protéger? Tandis que le ministère de l'Intérieur a publié hier son bilan sur l'insécurité et la délinquance pour 2021, le prochain épisode de Capital soulève les questions du coût de ces institutions chargées de les diminuer. Christophe Brûlé, le rédacteur en chef de l'émission, nous raconte pourquoi il a souhaité proposer ces reportages à quelques semaines des présidentielles.
La sécurité des citoyens, ça fait partie des thèmes de campagne de cette élection et il nous semblait important de contribuer au débat en apportant des éléments très factuels comme savent le faire les équipes de Capital. Policiers et magistrats se plaignent du manque de moyens, ils manifestent carrément dans la rue. Notre justice est parmi les plus lentes d'Europe, on réclame plus d'argent et justement ce gouvernement en a rajouté. Mais alors comment cet argent est-il utilisé? C'est ce que nous avons voulu montrer concrètement dans ce reportage pour que chacun puisse se positionner par rapport à des réalités de terrain.
Dans ces reportages qui nous emmènent dans les coulisses de la machine judiciaire et qui interrogent les magistrats, on apprend par exemple que 4 milliards d'euros sont utilisés chaque année pour les frais de justice. Du côté de la police, l'un des deux reportages nous emmène dans une commune contrainte de faire appel à des forces de sécurité privées pour pallier le manque de forces publiques. Pourtant, le ministère de l'Intérieur a augmenté de 400 millions d'euros en 2021 et prévoit une autre augmentation d'1,5 milliard d'euros pour 2022. Christophe Brûlé raconte ce qui l'a le plus frappé dans cette enquête sur les dépenses publiques.
La première chose qui nous a frappé, c'est que derrière chaque action des policiers, chaque interpellation de délinquants, il y a toute une série de frais qui vont se succéder. Des honoraires d'avocats commis d'office, des frais de traducteurs parfois. Et puis sur les grosses affaires, ce sont des factures payées à des laboratoires pour des analyses ADN. Tout cela se monte à des millions d'euros chaque année. La deuxième chose qui nous a frappé, ce sont les gaspillages d'argent public dans la mise au point des logiciels d'écoute ou des logiciels destinés à aider les policiers dans leurs enquêtes. Par exemple, ce logiciel pour la police a coûté 12 millions d'euros pour rien parce qu'il n'a jamais fonctionné.
Police, justice, faut-il dépenser plus ou mieux pour notre sécurité? Des éléments de réponse sont à trouver dans 2 épisodes de Capital, dimanche prochain à 21h10 sur M6.
Merci beaucoup, Elise Goua. Toutes ces infos à retrouver sur notre newsletter média. C'est gratuit, c'est sur europe1.fr. À lundi, Héloïse, pour un nouveau journal des médias. Bon week-end. Dans un instant, sur Europe, c'est notre info média du jour. On va parler de l'émission C'est dans l'air qui entre à son tour en campagne. La journaliste et présentatrice Caroline Roux reçoit les principaux candidats à la présidentielle avec ses experts. Question, est-ce que les bons experts font de bons intervieweurs? Question d'experts, on lui posera la question.
9h, 11h.
Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
Après avoir fêté ses 20 ans en fin d'année dernière, après avoir produit des soirées documentaires, l'émission C'est dans l'air, portée par la journaliste Caroline Roux, se lance dans la campagne présidentielle, et forcément à sa manière, en proposant un face-à-face entre les candidats et les experts de l'émission. En fil rouge de ces émissions, les questions internationales, un choix audacieux, le mot est faible, loin des traditionnels sujets de la vie quotidienne, de pouvoir d'achat, d'insécurité et du poids des cartables. Bonjour Caroline Roux.
Bonjour.
Vous êtes
journée... C'est important le poids des cartables aussi.
C'est le marronnier, mais c'est pas votre sujet. Vous êtes journaliste, présentatrice de C'est dans l'air sur France 4, des 4 vérités sur France 2, et donc de ces 4 soirées spéciales sur France 5. La première a été diffusée dimanche dernier avec pour premiers invités Éric Zemmour et Yannick Jadot. Est-ce que cette émission, c'est une fusion de vos deux rendez-vous quotidiens, l'interview politique, les 4 vérités et C'est dans l'air?
Bah oui, en fait. En termes d'exercice, c'est vrai que c'est un peu des 4V, un peu du questionnement d'invités politiques. Et en même temps, en termes d'analyse, de préoccupation des sujets de fond, c'est très C'est dans l'air. Et puis on a tous les codes de C'est dans l'air. On a les questions des téléspectateurs et on a surtout les experts de C'est dans l'air qui interpellent les candidats.
Trois choix très audacieux, je l'ai dit de votre part. C'est offrir une heure à chaque candidat pour parler des questions internationales. Et on a vraiment fait le tour de la planète lors de votre première émission. Bilan carbone, compilation.
Est-ce que vous avez trouvé bon pour la sécurité du monde que les forces de l'OTAN bombardent le Kosovo et bombardent Belgrade alors que le Kosovo voulait justement sortir de la Serbie?
Madame Roux, oui. On a eu à Cape Town aujourd'hui 46 degrés, record en Afrique du Sud. En Australie, 50 degrés. Au Labrador, il faisait moins 50 de l'autre côté de la planète.
L'Ukraine est une question essentielle.
Eh bien oui, mais pour reparler de l'Ukraine, on va passer par la Géorgie, si vous le voulez bien. Ce qui se passe en Ukraine nous renvoie à la situation en Géorgie.
Et puis, reconnaissons-le, vous savez, l'Indo-Pacifique, c'est de Djibouti jusqu'à Nouméa.
Partir du Mali ne veut pas dire partir de l'Afrique. Nous avons des bases solides au Tchad et en Côte d'Ivoire.
Si la Chine envahit Taïwan, on fait quoi?
Alors là, on est dans le jus.
On est dans le jus, en plein jet lag. Kosovo, Belgrade, Cape Town, Labrador, c'est au Canada, l'Ukraine, la Géorgie, Nouméa, Djibouti, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Tchad, la Chine et Taïwan. En dehors du sourire, pourquoi ce choix de vous consacrer à l'international pour ces 4 soirées en prime time? Je dis ça pour ça, on parle d'une émission média. C'est pas ce qu'il y a de plus sexy, c'est pas ce qui ramène le plus d'audience, l'international.
Ah ben non, je vous assure que quand on est allé voir avec toute l'équipe de C'est dans l'air, France Télévisions, en disant « Alors voilà, on a eu une idée, on va consacrer un C'est dans l'air uniquement pour la présidentielle aux questions internationales. Ils nous font confiance, donc ils nous ont suivis. » Mais j'ai senti qu'il y avait un peu d'interrogation quand même, parce que c'est jamais traité.
Ils disaient oui pour pas vous perdre à l'année.
Non, ils disaient oui parce qu'ils nous ont toujours fait confiance. Et ça, c'est une chance. C'est qu'on arrive parfois avec des documentaires sur la dette. On leur dit on va faire 90 minutes sur la dette. Ils nous regardent avec des yeux ronds en disant si vous êtes sûr, allons-y. Et en général, ça marche plutôt en termes d'audience. Donc, et puis tout simplement, moi je me suis dit c'est un sujet qui n'est jamais abordé. Vous savez, Philippe, lorsque le ou la présidente, la prochaine, ou enfin on verra ce qui se passe, arrivera à l'Élysée, il recevra quelques coups de fil. Il y aura Joe Biden, il y aura Xi Jinping, il y aura Vladimir Poutine. Donc j'espère qu'il aura calé son discours. Parce que c'est ça en réalité le boulot d'un chef de l'État. C'est 80%, c'est la gestion de la diplomatie, de notre relation avec les autres puissances dans le monde. Donc il y a une partie de la campagne qui est évidemment consacrée aux préoccupations quotidiennes des Français. Et puis il y a cet enjeu-là. Je voudrais juste, pour les gens qui nous écoutent ce matin, c'est pas un cours magistral, cette émission sur les relations internationales. Parce que c'est très proche des préoccupations des Français. Quand on parle du prix du gaz, quand on parle du prix du gaz aujourd'hui, si on ne comprend pas ce qui se passe avec l'Ukraine et avec Vladimir Poutine, en fait, on ne comprend pas pourquoi le gaz est en train de flamber.
Alors, vous dites, on est proche des préoccupations des Français. Un sondage vous donne tort. C'est un sondage ELA pour BFM TV qui a été publié hier sur les préoccupations des achats. Ce sondage place le pouvoir d'achat en première position avec 28%, en deuxième position la santé 11%, en troisième égalité à 8%, la sécurité, l'environnement, l'immigration, et tout en bas du classement avec 1%, la place de la France dans le monde.
Oui, bah en fait c'est ce que je vous disais, le pouvoir d'achat c'est en 1. La moitié de l'augmentation de l'inflation c'est lié au prix des carburants, au prix de l'électricité, au prix du gaz. Ça, ce sont des relations internationales et diplomatiques. Et je reviens vraiment précisément sur cette crise ukrainienne. Encore une fois, vous avez Bruno Le Maire qui passe son temps à faire des annonces pour essayer d'encaisser le choc de l'augmentation des matières premières.
Il était content ce matin, il a dit que la croissance n'avait pas été aussi haute depuis plus d'un demi-siècle.
Exactement. tout ça est interdépendant. On n'est pas hors sol, on n'est pas une puissance, une grande puissance qui n'aurait pas d'interdépendance avec, avec le reste du monde. Donc ce que je veux dire, c'est que quand je vous dis que ce n'est pas un cours magistral, on n'est pas là pour, voyez, pour écraser les gens d'une espèce de connaissance, de choses qui seraient très loin d'eux. C'est, on parle de réchauffement climatique avec, avec Yannick Jadot, il fait des propositions, on essaie de savoir si elles peuvent être appliquées quand on est, par exemple, dans un dialogue avec la Chine, voyez.
Vous n'avez pas trop parlé de climat avec Zemmour.
Non, parce qu'on essaie d'aller là où les candidats ont quelque chose à dire. On ne va pas les interroger sur un sujet sur lequel, a priori, ils n'ont pas de logiciel. On n'essaie pas de les piéger, effectivement. Donc, on a plutôt parlé climat avec Jadot et on a plutôt parlé souveraineté avec Éric Zemmour.
Alors, vous l'avez dit, c'est circonstancié, vos interviews, il y a de l'info, c'est sérieux, ce n'est pas non plus un cours magistral. Et ça marche, les audiences, vous les connaissez ?
Bah oui, je les connais.
Allez-y,
vous vous rendez compte. On a fait presque 800 000 sur la première.
Ouais.
Avec, effectivement, si on coupe l'émission en deux, parce que c'était deux heures d'émission. Bon, voilà, il y a une première partie qui était presque au million et la deuxième, un peu plus de 600 000. Bah, c'est beaucoup, hein, sur des affaires étrangères à cette heure-ci en prime time sur France 5.
On est d'accord. On a comparé 797 000 téléspectateurs pour C'est dans l'air présidentiel. On a comparé à d'autres dimanches. Le documentaire, par exemple, du 16 janvier fait 582 000. Vous êtes dans la
Fourchette haute.
Exactement. Merci de m'avoir aidé, je trouve plus le mot. Merci. Ça.
Je suis là, Philippe.
Vous avez vu le chiffre de Cyril Hanouna hier avec justement un débat Mélenchon qui est devenu un débat Mélenchon face à Éric Zemmour.
Non, je n'ai pas vu.
C8 est devenue la troisième chaîne de France. 1 836 000 téléspectateurs, 8,9% de part de marché. Est-ce que ce genre de chiffre vous fait rêver, même si le mot est trop fort, ou est-ce que vous dites que ce n'est pas mon genre de beauté, ce n'est pas le genre d'exercice auquel je souhaite me prêter un débat l'un contre l'autre ? Parce qu'il faut expliquer que dans votre émission, il y a un invité, puis un autre.
Mais non, ça ne me ressemble pas du tout. Ce n'est pas du tout ce qu'on fait sur C'est dans l'air. On fait exactement l'inverse, sans juger d'ailleurs ce que fait Cyril Hanouna, parce qu'il a un public qui ne regarde pas C'est dans l'air et moi j'ai un public qui ne regarde pas Cyril Hanouna. Donc au fond, chacun fait son job. Moi, c'est l'inverse de l'affrontement. Moi, j'aime la complexité, j'aime comprendre, j'aime la nuance. Donc en fait, l'idée... Donc pour le coup, je me fais plaisir aussi avec cette émission, hein, de mettre des gens très intelligents, des experts de C'est dans l'air, avec des politiques qui parfois sont sur des injonctions. Mmh. Et là, on va leur dire, oh là là, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc on n'est pas du tout dans le débat, on n'est pas du tout dans le show. Mais moi, ce qui me fait plaisir, c'est que ça marche malgré tout. Alors on n'est pas sur les chiffres de Cyril Hanouna, mais voilà quoi.
J'aime citer ici la phrase de Paul Valéry, oui. Je ne sais pas si vous la connaissez.
Allez-y.
Ce qui est simple est faux et ce qui est vrai est incompréhensible. On est Caroline Roux, Culture Média continue.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Caroline Roux, elle présente C'est dans l'air, c'est une quotidienne. Et le dimanche soir, pour la présidentielle, des émissions un peu spéciales. Elle s'appelle C'est dans l'air présidentielle. Dans cette émission, les téléspectateurs pourront retrouver vos experts qui ont l'habitude d'intervenir dans votre émission. Exemple avec Pierre Servant, expert en stratégie militaire. Il était dimanche face à Éric Zemmour et il était question de l'OTAN. Extrait.
Alors sur l'OTAN quand même, sujet important, donc pour les téléspectateurs rapidement, en 1965, le général de Gaulle annonce que l'année suivante,
absolument,
il sort du commandement intégré de l'OTAN, c'est une époque de lutte des deux blocs, le général de Gaulle souhaite notamment que la dissuasion nucléaire française soit sortie de ce jeu-là. On n'a pas le temps de rentrer dans le détail. Nicolas...
Il veut surtout, pardonnez-moi, ne pas être entraîné dans la guerre du Vietnam. Beaucoup plus, d'après moi, que la dissuasion nucléaire, que de toute façon est hors de l'OTAN, puisqu'on est une dissuasion autonome. Mais je vous en prie, allez-y.
Encore que, compte tenu des tensions qu'il y a pu avoir au début de la guerre d'Indochine entre Américains et Français, je doute que le général de Gaulle...
On ne refait pas un cours d'histoire.
Et, voilà,
on avance.
On ne refait pas un cours d'histoire, dites-vous, c'est le risque avec des experts qui ne sont pas, et c'est votre choix, des journalistes.
Non, là pour le coup, c'est juste parce que c'est vrai que depuis le début de l'émission, il y avait cette tentation à la fois d'Éric Zemmour, surtout d'Éric Zemmour, et c'est son logiciel, de toujours repositionner ce qu'il dit dans un contexte historique. Mais vous connaissez, vous savez ce que c'est que gérer le temps d'une émission. Moi j'ai une heure, j'avais tout un tas de sujets évoqués avec eux, donc c'est vrai qu'à un moment donné, je leur ai demandé d'accélérer et puis pas de se faire un débat d'experts justement.
Est-ce qu'un bon expert fait un bon intervieweur ? Ou est-ce qu'au contraire, vous êtes là justement pour pallier à ça ?
Ben, en fait, on le fait ensemble. Un bon expert, c'est un expert. C'est-à-dire que moi, ils sont là pour apporter de la valeur ajoutée, pour parfois ce qu'il fait là sur le commandement intégré de l'OTAN, c'est-à-dire des précisions. Et puis, c'est cette démarche pédagogique qu'on a vis-à-vis des téléspectateurs de C'est dans l'air qui aiment cette émission pour ça. Mais de temps en temps, je reprends la main pour redonner un petit peu de rythme sur l'interview.
Est-ce que vous les avez coachés au fur et à mesure des semaines, même des années ? Parce que ça fait longtemps que vous êtes là.
Je les coach parfois sur le rythme. Moi, je les aime déjà. Mmh. Je les aime vraiment d'amour, les experts de C'est dans l'air. J'ai tellement d'admiration pour eux. J'ai tellement de chance de les avoir à ma table. J'ai l'impression que je dîne avec les meilleurs tous les jours. Vous vous rendez compte, c'est extraordinaire. Donc, mais de temps en temps, ils n'arrivent pas à communiquer leurs propos. De temps en temps, ils sont trop longs. De temps en temps, ils ne respectent pas le rythme de l'émission. Donc, très gentiment, je leur fais des remarques parfois, mais pour la plupart, je n'ai pas besoin.
Il y a une autre valeur sûre dans C'est dans l'air, ce sont les reportages, exemple en Géorgie ou en Estonie, mais également avec des sujets réalisés par des correspondants de la rédaction de France Télévisions, Agnès Varamian au Moyen-Orient ou Arnaud Miguet en Asie. C'est dans l'air, c'est produit par une société de production, Maximal Production. Vous avez votre propre rédaction. Comment se passe la collaboration avec les journalistes maison de France Télévisions?
Bah, très bien, puisque du coup, ils collaborent à cette émission, comme vous l'avez dit, avec les correspondants de France Télévisions. C'est quand même un luxe. France Télévisions, c'est worldwide. Ils sont partout, les correspondants. Ouais. Donc du coup, on a une liste de gens sur lesquels on peut s'appuyer pour aller regarder ce qui se passe ailleurs et faire rentrer l'étranger aussi dans cette émission.
Ils ont le temps
de le faire?
Oui.
Oui. Et puis ils sont très contents de le faire.
Ça n'est pas question. Ils sont très contents de le faire.
Ouais, vraiment, vraiment.
Vous dites que les 8 principaux candidats vont être invités dans C'est dans l'air présidentiel. Oui. Qui seront vos prochains invités, Caroline Roux?
Tout n'est pas totalement calé parce qu'ils ont des agendas un peu compliqués. Donc les prochains, je peux déjà vous dire, parce que c'est dans 2 jours que ce sera Jean-Luc Mélenchon et Anne Hidalgo. Et puis après, on essaie un peu de caler. Vous avez vu qu'à gauche, c'était un peu compliqué au niveau des candidatures. Donc il y a quelques trucs qui peuvent bouger.
Chaque mois, un nouveau candidat ou une nouvelle candidate.
Voilà, c'est ça. Donc il faut s'adapter.
Ouais. Emmanuel Macron.
On l'a invité. Ouais. On attend qu'il soit candidat, puisque de toute façon, voilà, il sera traité comme les autres candidats. Donc nous, on a 4 soirées, donc il faut qu'il avance un peu. Et puis on a jusqu'au 6 mars, parce qu'après, on change de règles du jeu en termes de temps de parole. Donc on sera dans l'égalité totale, parfaite. Donc là, ça sera plus compliqué. Donc je lance un message, hein, c'est jusqu'au 6 mars pour se déclarer.
Votre dernière soirée, ce sera le 13 février, c'est bien ça?
Oui.
Qu'est-ce que vous faites si Emmanuel Macron se déclare d'ici là?
Ben, on l'invite. On l'invite et puis on peut refaire une soirée en plus. J'irai voir France Télévisions, je leur demanderai.
Je ne les imagine pas en train de vous dire non. Est-ce que cette présidentielle intéresse les Français, de ce que vous en ressentez?
Bah, c'est très singulier parce que les Français, là, ils sortent de la vague Omicron. Enfin, même s'il y a un nombre de cas absolument phénoménal, on sent bien qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger. Elle est anesthésiée par cette crise sanitaire. Donc, le président n'est pas encore entré dans la campagne. Il n'y a pas de meeting. Moi, ça me manque terriblement, les meetings dans cette campagne.
Pour quelle raison?
Bah, parce que j'aime la politique et que les candidats, ils sont réduits au format des télévisions. Et vous m'avez parlé tout à l'heure du débat Zemmour-Mélenchon. Moi, ce que j'ai envie, c'est de voir Jean-Luc Mélenchon, Éric Zemmour, Valérie Pécresse, Anne Hidalgo, dans des moments où ils sont portés par la foule. Vous voyez ce que c'est un meeting? C'est
bien
beau,
sûr.
Un meeting.
C'est beau.
Et puis à un moment donné, il se passe quelque chose. Le candidat, il n'est pas sur des petites phrases, il n'est pas sur du buzz, il porte un récit. Il porte un moment. Moi, je me souviens des grands meetings que j'ai faits quand j'étais journaliste sur le terrain, journaliste politique. Les grands meetings de Sarkozy, les grands meetings de Hollande. À ce moment donné où on dit ce sera lui, où ça bascule, où il est là, où il est en phase avec les militants, où il délivre quelque chose, où il raconte quelque chose du pays. Là, je ne l'ai pas.
Je suis assez étonné de ce que vous dites et je vous crois et je vous entends.
Oui.
Un meeting, quand bien même vous êtes dans une salle de 10 000 personnes, vous parlez qu'à 10 000 personnes.
Non,
c'est rien, c'est un quart du Parc des Princes.
Ah,
c'est pour la télévision, expliquez-moi la différence.
Ah bah pas du tout, mais il y a un souffle déjà, il y a un discours. Le discours aujourd'hui, il est formaté, il est mis au format de la télévision, de la radio, des réseaux sociaux. Quand vous êtes dans une salle, que vous portez les mots, parfois les mots d'un autre, je me souviens de ce très beau discours d'Henri Guénaud porté par Nicolas Sarkozy, il y a quelque chose qui bascule, vous sortez de vous-même, c'est 10 000 personnes, enfin, vous ne parlez pas, vous parlez peut-être vous à 10 000 personnes par l'intermédiaire de la radio,
bien
mais
plus.
Être devant une salle plus que ça. Mais je les ai vus se transformer, je les ai vus se dépasser. On a vu Emmanuel Macron à un moment donné dans ce discours-là prendre la parole. Hausser le ton comme ça.
Je souris parce que c'est devenu un sujet de blague maintenant.
C'est devenu un sujet de blague.
Parce que c'est notre projet.
Sauf que ce moment-là, il bascule. Mon ennemi, c'est la finance au Bourget. Hollande, il bascule. Et pour l'instant, ces moments-là, on ne les a pas eus. Et moi, ça me manque dans la campagne. Ça se fait beaucoup dans les médias, c'est formidable, on est ravis. Ça se fait à la télé, ça se fait à la radio. Mais pour l'instant, il manque ça. Il manque ces moments de ferveur, ces moments politiques où le candidat aussi, et je parle du contenu, délivre un récit national, délivre une histoire. Pour l'instant, tout ça est un peu morcelé. On a des petits bouts de discours, on a des petits bouts de propositions, mais il n'y a pas eu ce moment où, vous voyez ce que je veux dire, où ça se cristallise, où il se passe quelque chose.
J'aime beaucoup votre franchise, Caroline Roux, une femme de télévision qui dit pour l'instant, tout ne se passe qu'à la télévision. Merci de cette franchise. C'est dans l'air présidentiel, ce sera dimanche soir à 21h sur France 5. Jean-Luc Mélenchon, puis Anne Hidalgo, et également les dimanches 6 et dimanche 13 février prochain. C'est dans l'air, c'est tous les soirs du lundi au samedi, 17h45. Et on vous retrouve dans les 4V ou les 4 vérités, on dit comme on veut, en semaine, dans Télématin.
Je peux dire juste aux gens qui nous écoutent, qui peuvent poser des questions aux téléspectateurs ?
Oui.
Voilà, voilà, ils sont les candidats, c'est pour eux, donc ils peuvent poser des questions.
Si j'avais dit non, vous l'auriez quand même dit. Merci, elle est maligne, Caroline Roux. Dans un instant, Culture Média continue, on parle du nouveau magazine disponible en kiosque du chef Thierry Marx, ça s'appelle Bon. Le surtitre, le voici, les racines de l'esprit naissent non pas en meeting, mais dans l'estomac. Culture Média continue.
9h, 11h. Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Bonjour Thierry Marx.
Bonjour.
Quel plaisir de vous avoir à ma table. Je parle comme un restaurateur, cuisinier étoilé, mais pas seulement. Vous êtes formé chez Taïwan, chez Le Doyen, je vais faire court. Vous êtes posé au château Corday-en-Bage, vous avez obtenu 2 étoiles au Michelin. En 2011, vous avez pris la direction des cuisines du Palace, le Mandarin Oriental, où vous avez retrouvé ces 2 étoiles, parce qu'évidemment, on les perd quand on quitte un endroit. Le grand public vous connaît également parce que pendant 4 saisons, vous avez été juré dans l'émission Top Chef sur M6. On est ici une émission média. Vous avez également ouvert des écoles, des centres de formation. Mais ce n'est pas tout. Vous vous lancez dans la presse avec la création d'un magazine. Ce magazine s'appelle Bon, B-O-N. Il y a beaucoup de personnalités qu'on est venu chercher pour faire un magazine autour de leur nom et de leur notoriété. Michel Simès, Sophie Davant, Jean-Pierre Pernaut, Stéphane Plaza, notre copain Mariotte, Faustine Bollard. Mais là, c'est différent. C'est vous qui avez créé ce magazine. Avec quelle idée de départ, quelle envie ?
Avec l'idée de départ, qu'il y avait beaucoup de monde dans les cuisines depuis des dizaines d'années. On parlait beaucoup d'ingrédients transformés, mais on ne parlait pas de l'univers global de la gastronomie et de l'alimentation. Donc je trouvais que c'était intéressant de montrer que dans cette cuisine, dans cette gastronomie, il y avait de la sociologie, il y avait une histoire d'alimentation, il y avait de la philosophie, il y avait de l'économie, parce que c'est vraiment très lié au monde de l'alimentation, et je trouvais qu'il fallait en parler. Edgar Morin a compris ça et a accepté une interview, etc. Beaucoup de gens qui ont accepté, Pierre Gagnère aussi, il y a des chefs, mais il fallait parler de cuisine autrement, et de l'univers de la cuisine globalement, et pas simplement de recettes, et puis de montrer que l'alimentation, c'est un enjeu politique. On s'en rend compte, c'est quand même quelque chose qui touche l'intime de chacun, et il est bon de savoir ce qu'on mange et qu'est-ce que c'est qu'un bon produit, son impact social et son impact environnemental.
Edgar Morin, pour qui ne le connaîtrait pas, c'est un philosophe. Vous dites j'ai voulu aborder l'alimentation avec un autre regard que celui du cuisinier. Alors on connaît l'adage, la guerre est une chose trop sérieuse pour qu'on la laisse aux militaires. Est-ce que c'est la même chose pour l'alimentation et pour la cuisine ?
Je pense que c'est la même chose pour la cuisine. Il est certain que le cuisinier, l'artisan cuisinier, ne va grandir que s'il nourrit aussi son esprit. Tous les grands chefs que j'ai croisés, que ce soit Joël Robuchon, Claude Delligne, Alain Chapelle, Jacques Maximin, sont des gens qui ont puisé dans l'histoire, dans la culture de l'alimentation et ont continué à faire évoluer leur cuisine. Donc je pense que ce magazine sert aussi à s'ouvrir l'esprit sur d'autres choses que simplement transformer des ingrédients.
Alors quand vous dites d'autres choses, j'avais encore jamais vu ça. C'est un magazine de cuisine avec quasiment aucune photo de cuisine. Je parlais de tous ces magazines construits autour d'une personnalité. Il n'y a pas votre photo en couverture, il y a juste votre nom. Pourquoi ce choix ?
Parce que d'abord avec Romain Jubert, qui m'aide beaucoup évidemment dans ce magazine pour la rédaction, je ne voulais pas faire quelque chose de trop personnel. Je ne suis pas là pour développer mon ego sur un magazine, mais bien au contraire, d'essayer de réfléchir ensemble à ce qu'est l'alimentation. Donc il ne faut pas, je pense que ça aurait été surfait de y mettre son portrait partout.
Alors, vous n'êtes pas partout, vous écrivez un papier, je vais en parler. Je vais juste dire qu'il y a plein d'articles totalement, plutôt qui partent dans toutes les directions. Et ce n'est pas la moindre des qualités de ce magazine. Mais je vais aller à votre papier central. Le titre de votre papier central, Le Bon, c'est la fin du low cost. Vous écrivez et vous insurgez. Vous avez bouclé quand le journal ?
Quelques semaines avant.
Il y a quelques semaines.
Avant l'histoire.
Il dit, il écrit Thierry Marx, j'ai entendu dernièrement une publicité pour une marque de distribution pour une baguette à 0,65 euros. Texte qui fait écho avec l'actualité parce qu'entre le temps où vous écrivez ce papier et le moment où le journal est imprimé, Leclerc annonce avoir bloqué le prix de sa baguette à 29 centimes. J'aimerais avoir votre sentiment là-dessus.
Bah, j'étais irrité, vraiment, cette théorie du low cost qui revient, et avec le vieil adage de dire qu'on fait ça pour les modestes. Or que c'est ce qui a oxydé depuis 70 ans l'économie française, c'est cette théorie du low cost, et la théorie du low cost, c'est la théorie du renoncement. Tu renonces à la qualité, en échange de quoi je te fais un prix. Et ça, c'est intolérable, parce que c'est pas parce que depuis 70 ans, on écrase les marges des producteurs qu'on sert les consommateurs. C'est faux. Et je trouvais que la grande distribution qui était dans le hard discount, qui passait d'ailleurs dans le smart discount, on avait plus de fruits, plus de bio, plus de circuits courts, ben je trouvais que cette histoire de baguette, c'était une mauvaise rechute. Alors évidemment, je ne montre pas du doigt cette enseigne, hein, mais bon, comme Édouard Leclerc me charrie un petit peu là-dessus, et je sais qu'il aime le... Michel-Édouard Leclerc, je sais qu'il aime la BD, et je le compare un peu à l'oncle Picsou. C'est-à-dire que
il
moi,
va être
je
content
suis, non, mais il m'a charrié avec Gottlieb et tout ça, et je trouve que bah, c'est un peu ça. Moi, je ne suis pas né dans un coffre-fort, donc j'ai fréquenté ces enseignes très longtemps, avec des fois des budgets extrêmement courts. Donc je comprends son discours. Mais à un moment donné, avancer les grandes théories du low cost en disant je fais ça pour les plus modestes, c'est un côté dérangeant, presque un peu cynique.
Ce n'est pas un journal militant, c'est un journal ouvert, c'est un journal philosophique. Il a été créé par Thierry Marx. Vous restez avec nous, on n'a pas raconté les autres papiers qu'il y a dans ce premier numéro de Bon, qui est d'ailleurs noté numéro 2, Culture Média continue.
9h-11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel.
Les racines de l'esprit naissent dans l'estomac, c'est pas moi qui dis ça, c'est pas Molière, c'est Thierry Marx. Bon, c'est un magazine, un trimestriel que vous lancez alors qu'on vous connaissait comme chef étoilé. Magazine formidable parce que ça part vraiment dans tous les sens. On apprend beaucoup de choses. J'ai découvert avec vous ce qu'étaient les Dark Kitchens, comme il y avait le Dark Web, c'est une sorte de web sous l'internet officiel. Ce sont quoi les Dark Kitchens?
Alors les Dark Kitchens sont des restaurants pas ouverts finalement, sont que des cuisines où va pouvoir s'approvisionner toutes les plateformes qui distribuent de la nourriture. On les connaît, hein. Il y a deux grandes plateformes en France, mais il y a deux grandes plateformes dans le monde.
C'est un peu comme ce qu'on appelait autrefois les appartements raviolis, où les restaurants chinois de Paris étaient irrigués par ces endroits-là.
Oui, sauf que ça a grandi, ça s'est légalisé. Et là, les dark kitchens, elles sont parfaitement légales. C'est-à-dire que il y a des restaurateurs qui vendent leurs produits dans leur restaurant et puis qui ont compris que la digitalisation, on n'allait pas pouvoir reculer et qu'il allait falloir... Donc, ce n'est pas très intéressant d'avoir des vélos et des scooters devant son restaurant. Donc, on déplace la problématique. On copartage des fois une dark kitchen avec d'autres restaurateurs et on peut envoyer directement chez le client qui se fait livrer.
Pourquoi ça vous contrarie, en dehors du fait que ça vous retire du business, non. Si c'est de la qualité?
Alors, ça ne me contrarie pas du tout. C'est juste un état de fait. C'est-à-dire qu'au premier confinement, quand mon métier a été, je dirais, démonétisé, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qui est possible? Et on a vu ces plateformes accélérer leur croissance. On parle de plus de 2 milliards de croissance pour ces plateformes. Donc, il y avait intérêt à ce que les restaurateurs réfléchissent à ça. Donc, il y a des dark kitchens qui sont plutôt assez médiocres et assez industrialisation de la cuisine, et puis d'autres qui sont très intéressantes pour des chefs qui peuvent avoir à signer une cuisine en dark kitchen.
Vous dites autre chose absolument passionnant, j'avais jamais vu les choses sous cet angle, vous dites que les Français se sont focalisés sur la grande cuisine et c'est tant mieux, ils ont complètement oublié la cuisine populaire, la cuisine de rue, et nous on ne sait plus faire alors qu'on peut trouver ça dans les rues de Séoul ou dans les rues de Rome.
Oui, c'est complètement vrai, la France dans les années 70 a commencé sa période d'industrialisation. Alors on a vu toutes ces cafétérias autour des grands centres de consommation et on a vu disparaître les bistrots de campagne. Et ça nous a coupé de notre culture rurale, qu'on le veuille ou non. Ce qui n'a pas été le cas en Italie, par exemple. En Italie, on peut manger bon et pas cher dans beaucoup de villages italiens. Et ça, ça a disparu de la France parce qu'à un moment donné, on est tombé dans le panneau de l'industrialisation de la cuisine.
Alors là, c'est pour le sérieux. Il y a aussi beaucoup d'humour dans ce magazine. Par exemple, une idée formidable pour les parents qui vont au restaurant avec les enfants. Les enfants, quand ils ont 6, 8, 10 ans, ils s'ennuient au resto. Le repas dure trop longtemps pour un enfant. Vous avez eu une idée de jeu très créative. C'est une fiche de dégustation à remplir comme si on était chez Champérard ou Goemio.
Exactement. On préformate, on demande à ces jeunes gens de devenir des critiques gastronomiques, finalement, qu'est-ce qu'ils apprécient. Alors, c'est un outil utile, hein, parce que quand vous avez le feedback, que vous lisez ça, eh bien, vous dites, « Ah tiens, c'est comme ça qu'un enfant de 10 ans perçoit mon établissement, c'est comme ça qu'un adolescent perçoit mon établissement. » Et finalement, ça peut vous permettre de corriger un petit peu le sens de l'hospitalité de votre établissement.
Il doit mettre des notes sur 5 ou sur 10, la beauté du décor, l'ambiance du resto, la qualité de l'accueil, et puis entrée, plat, dessert. Le gamin ou la petite fille doit raconter ce qu'il a aimé avec des notes. Vous revenez aussi sur une publicité mythique des années 90. C'est la fameuse pub « J'ai craché dans mon yop ». Pub réalisée, je l'ai appris grâce à vous, par Bertrand Blier, quand même, excusez du peu. On l'écoute, vous nous racontez une histoire. Alors, je vais donner le contexte de l'image, que là, on n'a que l'image. Ça se passe dans la rue, il y a un jeune ado qui se balade avec son yaourt à boire à la main. Il est très content d'avoir son yaourt à boire. Mais derrière lui, il y a une bande de jeunes qui l'accostent et ils sont plutôt menaçants.
Ça a l'air pas mal du tout, ce que tu es en train de te taper, là, hein? Eh, ce serait pas un yacht?
Oh, je sais pas ce que c'est, hein, mais c'est pas l'extase, hein. Bon, c'est une espèce de yaourt litty.
Mais tu vois ton yaourt?
Mais laisse mon yaourt tranquille, de toute façon j'ai craché dedans.
Hein? T'as craché dans ton yop?
Ah, mais c'est grave ça, oh! Hey!
Non mais sans blague, on va pas me tirer mon yop quand même.
Vous avez retrouvé le publicitaire de l'époque qui avait signé ce film, Gérard Jean. Racontez ce qu'il vous a raconté.
Ouais, alors ce qu'il raconte, c'est marrant, c'est qu'il sort ça et vient le patron de la boîte, veut pas. Mais trop tard, c'est sorti. Et donc, redirez-moi ça tout de suite.
Il a reçu une lettre d'insulte du patron.
Mais il a reçu une lettre d'insulte mémorable. Et, mais trop tard, le coup était parti. Et finalement, quelques semaines après, il dit c'est génial, la pub, ça cartonne. Et voilà, comme quoi, un contre-pied, déranger des cercles par moment, ça sert à quelque chose.
Au point que vous donnez le chiffre, Yop faisait la moitié du chiffre d'affaires de Yoplait après cette publicité dont le patron ne voulait pas.
Exactement.
C'est toujours intéressant.
Comme quoi, il faut déranger le patron de temps en temps.
Dans l'édito, vous écrivez, Thierry Marx, à la différence des médias qui infiltrent les cuisines, nous invitons également à en sortir pour réfléchir au bon. Vous trouvez qu'il y a trop d'émissions de cuisine à la télé?
Je trouve qu'il n'y a pas trop d'émissions de cuisine. Je parle qu'on ne parle pas assez de cuisine. On voit beaucoup de fighting cuisine, on voit beaucoup de concours de cuisine. Mais à un moment donné, j'aime bien retourner aux racines de la cuisine. C'est-à-dire que chez le producteur,
il y a voir, beaucoup de reportages là-dessus.
Donner du... Oui, mais est-ce qu'ils sont dans le détail? Aujourd'hui, on a beaucoup de mal à trouver une émission qui nous parle de qu'est-ce qu'un bon produit, son impact social, son impact environnemental. Et je pense qu'on pourrait redoubler d'attention un petit peu là-dessus. Et il y a des pistes à creuser.
Et puis, dans une interview de l'AFP, c'était en juin dernier, vous disiez, si vous regardez la cuisine en détail, elle n'a pas évolué depuis les années 80, mais il y a maintenant tel chef qui joue avec des dreadlocks, un autre avec des tatouages, un autre qui revendique de sauver la planète. Pourquoi ça vous énerve?
Ça ne m'énerve pas du tout. Moi, je ne fais qu'un constat. Je suis plutôt, je regarde les faits. Ensuite, je suis plutôt bienveillant.
Non, mais quand vous dites qu'il y en a un qui a des tatouages, un qui a des dreadlocks, ça sous-entend que leur première qualité n'est pas la cuisine.
Alors, non, là où on s'interroge avec la rédaction, c'est de se dire, est-ce qu'on consomme de la cuisine ou est-ce qu'on consomme de l'image? Si je vous parle de gens comme Alain Chapelle, par exemple, on parlait de langouste à la verveine. On n'avait pas besoin de voir le chef, on goûtait ça, on disait « Ah non, mais ça c'est du Chapelle, ça c'est du Maximin, ça c'est du Ducasse, ça c'est du Robuchon. » Donc il y avait cette référence au produit et à la cuisine. Après, aujourd'hui, on a une image d'un homme, et hélas, ça fait beaucoup de Mozart assassinés. Mmh. Parce que la durabilité, il va falloir la justifier.
Pour vous donner raison, on avait fait un sujet ici dans Culture Média la première saison. Vous savez pourquoi il y a autant de restaurants autour de l'avocat? Parce que c'est ce qu'il y a de plus télégénique sur Instagram.
Mais je suis d'accord. On mange des images.
Vous êtes le directeur de l'application de Bon, co-directeur avec Romain Jubert, vous l'avez cité. C'est quoi le modèle économique de Bon? Il faut vendre combien de numéros? Oh là! Thierry Marx rigole déjà avant question.
Il y a par moments, des fois, je me dis, je me fous du modèle économique. Si on survit, on en fait un deuxième, et puis un troisième, c'est un trimestriel. On est bien parti. Bon, maintenant, voilà. Bon, ben voilà. Je pense que si je regarde la tirelire, eh ben, quand il n'y a plus de sous dans la tirelire, on verra bien. Quoi.
D'accord. Il y a des échanges marchandises ou pas du tout?
Il y a
un peu de pub.
Il y a un peu de pub. Alors, on espère développer un peu plus de pub. Et puis, d'être suivi. Globalement, on est bien suivi en kiosque.
Et je précise qu'à la fin du journal, il y a même des blagues soviétiques qui m'ont beaucoup fait rire. Elles sont trop longues pour être racontées ici. Merci Thierry Marx d'avoir été avec nous. C'était un plaisir. Ça s'appelle Bon. C'est dans tous les kiosques et dans les gares également. 9,50 €. Je ne l'ai pas encore dit. Voilà le modèle économique qui fait marrer Thierry Marx. Culture Média continue évidemment après les infos de 10h. On va retrouver les télescopages de Bruno Donnet. Il a regardé Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour hier soir dans Face à Baba et il aimerait suggérer un nouveau titre, m'a-t-il dit, à Cyril Hanouna. Notre invité, c'est la chanteuse Jeanne Chéral pour son concert original autour des chansons de cinéma. Et puis dans les indispensables, un invité très spécial, c'est Antoine Decaune depuis la conférence de presse de la prochaine cérémonie des Césars. Il va l'animer le 25 février. Europe 1 est partenaire. Et puis Laurent
Laurent Mariotte, il va nous donner ses meilleures recettes de sauce pour les pâtes. Et puis l'humoriste et imitateur Marc-Antoine Lebray en fin d'émission. À tout de suite sur Europe 1.